qui est vu par plusieurs personnes comme le front-runner. Il était un peu sur la défensive samedi, beaucoup mieux dimanche. Une chose que j'ai entendue de certaines personnes, c'est on a besoin de plus de fonds de la part de M. Rodriguez. Quelles sont ses propositions concrètes? Et c'est là où on voit la difficulté, même difficulté que Jean Charest a eu en passant quand il est passé du Parti progressiste conservateur au Parti libéral du Québec. La transition du fédéral au provincial, ça prend du temps.
OK, ben merci beaucoup, Dimitri. On va se retrouver demain. Merci pour les bonnes blagues aussi sur les Américains qui mangent et boivent plus que les autres. On
les
se retrouve demain.
Cogeco Nouvelles.
Lundi 5 mai, ici Stephen Zurbinski. Voici les nouvelles. Une opération policière s'est déroulée tôt ce matin en lien avec du trafic d'armes à feu. Le tout a commencé avec l'arrestation d'une Américaine âgée de 45 ans de l'État de New York alors qu'elle venait d'entrer de façon illégale au pays avec des armes à feu en sa possession. L'arrestation s'est déroulée dans le secteur de Franklin en Montérégie. Par ailleurs, la même enquête a permis de procéder ce matin à 5 perquisitions à Gatineau et Kitigan-Zibi. Un homme de 31 ans de Gatineau, de même que 2 hommes de 29 et 37 ans ont été arrêtés. La Fédération des médecins omnipraticiens demande au gouvernement Legault de nommer un arbitre pour dénouer l'impasse dans ses négociations avec les médecins. Les médecins ont refusé la proposition de Québec en fin de semaine d'instituer des codes de couleur pour établir une priorité parmi les patients. Ils voudraient notamment que Québec mette sur papier l'assurance que personne ne va perdre son médecin de famille avec sa réforme. Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le docteur Marc-André Amiot, croit qu'un conflit ne serait pas bénéfique pour la population. On l'écoute.
Je suis prêt à vous dire, cette collaboration-là, elle est tellement importante. Confions les modalités du renouvellement de l'accord-cadre, de rémunération, etc., à un arbitre indépendant. Hein? Pour ne pas créer de bras de fer, de guerre avec le gouvernement, qui ne serait pas bénéfique pour la population.
Le milieu du cinéma se demande comment l'administration Trump mettra en place ses tarifs dans cette industrie. Rappelons que l'industrie du cinéma américain représente des sommes de quelques centaines de millions de dollars avec une douzaine de tournages par année à Montréal. Le président américain Donald Trump a annoncé hier qu'il avait l'intention d'imposer des tarifs de 100% aux films qui ne sont pas entièrement tournés aux États-Unis. Bernard Larivière est président de l'Association québécoise des techniciens de l'image et du son. On l'écoute.
C'est vraiment difficile à imaginer comment qu'il va pouvoir faire le tri là-dedans pour savoir qu'est-ce qu'est une production américaine. C'est déjà des questions qui se posent beaucoup. Justement, un film est fait souvent à plusieurs endroits en même temps. Il peut être tourné à Montréal, mais les effets visuels vont être faits dans 5 pays différents, dont aux États-Unis.
La Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, aurait menti, caché des informations en cours et ignoré des ordonnances judiciaires dans un dossier impliquant 3 enfants retirés d'une famille d'accueil après des allégations d'abus sexuels visant le père. Ce dernier a été acquitté des accusations criminelles en 2021. La mère d'accueil n'a pas eu droit à des contacts avec les enfants, même si le père avait quitté la maison familiale pendant tout le processus judiciaire. Selon la presse, 3 juges ont conclu que les droits des enfants ont été lésés dans cette affaire, n'ayant été retirés de leur famille d'accueil. Eh bien, à cette journée internationale des sages-femmes, une coalition ainsi que le syndicat de la CSN martèlent que les projets de maisons de naissance doivent redémarrer. Rappelons que la profession de sage-femme est reconnue légalement au Québec depuis plus de 25 ans. La coalition pour la pratique sage-femme ainsi que le regroupement Les sages-femmes du Québec déplorent que la pratique du métier demeure encore méconnue et inégalement accessible selon les régions. Laval, la Montérégie-Est et la Côte-Nord sont ainsi privés de suivi obstétrique pouvant être effectué par des sages-femmes. Et 17,1 millions de touristes ont visité l'Espagne lors des 3 premiers mois de 2025, ce qui représente une hausse de 5,7% comparativement à la même période en 2024. Il s'agit d'ailleurs d'un record pour l'Espagne, se situant dorénavant en deuxième position des destinations les plus visitées. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
À Ciel FM. Bonjour, grand portage.
Météo. Ah, détail météo, donc aujourd'hui, c'est du soleil avec un maximum de 11 degrés. Ce soir, cette nuit, quelques nuages, minimum plus 2. Demain, des nuages tôt en matinée, 40 % de probabilité d'averse en après-midi, maximum 19. Mercredi, milieu de la semaine, c'est de la pluie, 14. Jeudi, pluie intermittente, 6. Et vendredi, alternance soleil-nuages, avec un maximum à ce moment de 10 degrés.
Température actuelle.
De Rivière-du-Loup, présentement, c'est du soleil et on est à 7 degrés Celsius.
Plongez au cœur de l'actualité avec nous. Notre engagement, vous livrer l'information sans compromis. Au rythme de l'information. Avec Kevin Beaulé. C'est Bonjour Grand Portage. La chronique économique avec Marie-Ève Fournier vous est présentée par Mallette, comptable professionnel agréé. Vous avez une société assujettie aux lois de l'impôt et vous voulez maximiser vos économies en matière fiscale? Mallette identifie et suggère des planifications fiscales avantageuses permettant de réduire les impôts à payer. La préparation des déclarations fiscales par des professionnels compétents vous assure exactitude et conformité des informations et de bénéficier d'avantages fiscaux disponibles. Mallette, avec vous, là où ça compte. 862-04-95.
Bonjour, Marie-Ève.
Bonjour, Patrick.
Hey, j'ai vu passer ça en fin de semaine. C'est la fin d'une époque aux États-Unis. Warren Buffett, l'investisseur le plus connu, qui a eu le plus de succès sur les marchés aux États-Unis, qui va prendre sa retraite.
Oui, et c'était totalement inattendu. Hein. Il n'avait pas prévenu personne sauf sa famille immédiate. Et il annonce ça là, à l'Assemblée annuelle de la compagnie. Mais bon, c'est mérité, 94.
Oui, inattendu, mais il y a 94. On s'attendait à ce que ça arrive, mais il n'avait pas télégraphié le geste.
Non. Et là, ce qu'il faut retenir de lui vraiment, Patrick, c'est que c'est possible de bâtir un empire avec deux ingrédients très, très simples, en tout cas du moins en apparence, de la patience et du bon sens. Hein? C'est ça qu'il faut retenir. Lui, quand il tombait sur une entreprise qu'il trouvait solide, bien gérée, combien de temps aimait-il garder leurs actions?
Combien?
5 ans, 10 ans? L'éternité. Il a souvent dit que c'était ça, l'idéal, c'était de garder pour l'éternité. Moi, je trouve ça un peu long, mais bon, le concept derrière ça, c'est qu'il faut garder les actions qui montent et vendre celles qui baissent. Et là, ça a l'air très simple, mais la plupart d'entre nous, on va faire l'inverse. Hein? Quand ça monte, on s'empresse de vendre parce qu'on veut empocher le profit. Puis quand ça baisse, on a vraiment espoir que ça remonte, fait qu'on les garde beaucoup trop longtemps. Alors lui, il a mis ce principe en pratique qui semble simple. Mais ça fonctionne parce qu'écoute, Berkshire Hathaway, sa compagnie, là, ça vaut aujourd'hui 1000 milliards de dollars. Donc, c'est un peu la preuve que ça fonctionnait. Lui, il achetait des entreprises là, qui font de l'argent, qui sont dans le quotidien des gens, des entreprises qui font des choses qu'on comprend. S'il n'était pas capable d'expliquer qu'est-ce que la compagnie fait en deux phrases, il n'achetait pas les compagnies. Donc, il a acheté du Coca-Cola, Apple, American Express, Aftin, c'est des compagnies comme ça. Et là, je te donne un chiffre, Patrick. Hein, depuis 60 ans, le rendement qu'il a fait, lui, 5,5 millions de pourcents. C'est hallucinant.
Est-ce que je me trompe ou une action vaut quelque chose comme 800 000 $?
Oui, quelque chose du genre. Écoute, lui, il n'est pas dans le fractionnement parce que c'est rendu à 200 puis on veut que ça soit plus accessible. Là. Ça grimpe. Donc, on répète hein, ces principes qui l'ont rendu très riche et qui peuvent tous améliorer notre sort. On comprend dans quoi on investit. La patience, c'est une arme. On garde ce qui fonctionne. On investit dans de la qualité, hein, des compagnies, des marques fortes qui savent traverser les crises. On évite les modes et on reste rationnel même quand tout le monde panique. Je pense que c'est vraiment 5 bonnes leçons à retenir de Warren Buffett.
Et tu sais, là, les milliardaires actuels là, qui ont monté dans les dernières années, il y a quelque chose qu'on pense qu'on veut de leur succès, les Amazon et autres Tesla, quelque chose d'un peu indécent à les voir, tu sais, de façon très, très public, dépenser de l'argent, vouloir aller sur la Lune, etc. Lui, M. Buffett, écoute, il vivait comme quelqu'un qui avait, pas qu'il faisait pas une scène, mais il vivait comme quelqu'un qui faisait un bon salaire, sans plus, la même maison depuis 60 ans, il y a un char usagé. Moi, je trouve ça extrêmement sympathique.
Moi aussi, puis en plus, bon, non seulement il vivait dans la même maison qu'il avait acheté 32 000 $ à l'époque, mais tu sais, il a travaillé jusqu'à 94 ans par passion et c'est un modèle vraiment de rigueur, de constance, de retenue. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand on voit à quel point, comme tu dis, l'argent, ça peut rendre fou et on n'aura pas de nom, mais on en connaît, c'est rassurant de voir qu'un homme comme lui a su garder la tête froide, les deux pieds sur terre, et il a donné presque 100% de sa fortune à des œuvres. Ça, c'est important de le dire. Très, très grand philanthrope.
OK, parlons maintenant du coût de la vie. Là, on va revenir à des enjeux plus terre à terre là, dans les résidences privées pour aînés, les RPA.
Oui, parce que c'est économiser pour sa retraite et espérer faire quelques petits voyages par-ci, par-là, c'est déjà assez compliqué, mais économiser, Patrick, pour aller en RPA, je te dirais que c'est carrément déprimant, mais on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que les prix sont élevés et toutes les petites résidences, hein, les plus abordables, ben, elles ferment les unes après les autres. Il y a beaucoup de fermetures. Et là, il y a une nouvelle règle, encore une fois, qui s'ajoute. Hein. Les RPA vont devoir, et je sais que ça a l'air vraiment anodin, Patrick, mais tu vas comprendre l'importance de la chose. Il y a une loi qui va forcer les RPA à avoir un dispositif là, pour empêcher les résidents qui ont des troubles cognitifs à sortir sans supervision.
Oui.
Évidemment, on veut ça. On veut pas que personne quitte les lieux sans prévenir. Ça va être obligatoire dans 2 mois. Mais ça coûte cher. Et l'aide financière du gouvernement du Québec qui devait aider les RPA à mettre ce système en place-là, ben, a pris fin le 31 mars. Et là, ce que l'Association des résidences dit, c'est il y en a d'autres qui vont fermer parce qu'on n'a plus les moyens et c'est déjà pas une industrie extrêmement rentable. Alors, si les petites qui ne coûtent pas cher ferment, qu'est-ce qui reste? Les grosses, celles qu'on voit dans les publicités qui ressemblent à des bateaux de croisière et qui coûtent une fortune. Et là, on se dit, mais ça coûte combien? Hein? Et là, les aînés qui en perte d'autonomie le savent, ceux qui ont des parents qui sont en train de magasiner le savent, ça concerne beaucoup, beaucoup de monde au Québec, mais ça coûte 5 000, 8 000, 10 000 par année. Hein. C'est pas rare que... Par mois.
Oui.
C'est pas rare que ça coûte 100 000 par année, une résidence pour aînés. Donc, c'est là qu'on réalise que il y a vraiment deux types d'aînés au Québec. Hein? Ceux qui ont des régimes de retraite blindés avec des rentes garanties qui peuvent se payer ça, là, 100 000 par année, ou ceux qui ont vendu une maison à 800 000, à 1 million. Et tous les autres qui vivent de leurs économies, leur REER, de leur rente du gouvernement, qui n'auront jamais les moyens d'aller dans ce type de résidence. Donc, on fait quoi? Moi, je pense que on va frapper un mur. Et là, une des choses que j'entends souvent, c'est « Ah, ben les aînés qui n'ont pas beaucoup d'argent iront en CHSLD. »
Mais c'est pas comme ça que ça marche, je pense.
C'est pas du tout comme ça que ça marche. Hein. C'est pas... le CHSLD, là, il faut être admissible. Il faut être malade et c'est pas nous qui décidons d'y aller parce qu'on n'a pas les moyens d'aller en RPA.
Non, tu fais bien de le souligner. CHSLD, d'habitude, là, c'est la dernière année et demie de vie d'une personne, là, généralement, là.
Oui, il faut être malade et même quand on est malade, ben il y a de l'attente. Hein? On parle de 3000 personnes en attente actuellement. Donc, ça se peut qu'on doive vivre en RPA plus longtemps qu'on le veuille et que toutes nos économies y passent, l'héritage de nos enfants. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que l'État pourrait faire. Est-ce qu'on doit soutenir financièrement des RPA privés? Est-ce qu'on doit inventer un nouveau modèle? Mais je pense que c'est un enjeu de société important.
En terminant, je reviens à M. Trump, là, qui est dans toutes les chroniques, dans tous les segments quasiment. Là, hier, il a annoncé des tarifs de 100% sur les films américains, Marie-Ève, qui ne sont pas produits aux États-Unis. Ça a fait bondir au Québec parce que les super-productions américaines au Québec, ça fait vivre beaucoup de monde.
Oui, c'est un chiffre qui ébranle vraiment notre industrie du cinéma et des milliers de travailleurs parce que, on le sait, Montréal accueille beaucoup de productions américaines, 10 à 12 par année. Et chacune d'elles, là, c'est intéressant, fait travailler jusqu'à 2000 personnes. Donc, c'est vraiment énorme. On a beaucoup d'atouts. On a non seulement là, des immeubles, des rues qui ressemblent à l'Europe, mais beaucoup de paysages, une grande expertise. Donc, c'est une autre industrie québécoise qui se fait attaquer par Donald Trump. Et je te dirais que celle-là, on l'avait vraiment pas vu venir.
Merci beaucoup, Marie-Ève. On va se retrouver demain.
Le jeudi 8 mai, c'est le grand McDo. Tout achat chez McDo vient en aide aux enfants malades et à leurs familles.
Fait que si je commande un Big Mac, j'aide les enfants.
Oui, un Big Mac, c'est bon.
Un chausson?
C'est bon.
Un McFlurry?
Bon aussi.
Une petite frite?
Bon.
Quart de livre?
Bon.
McWrap?
Bon.
McPoulet?
Non.
Oh.
Ben non, un McPoulet, c'est bon.
Ah!
Le jeudi 8 mai, c'est bon de donner lors du Grand McDon. Joignez-vous à nous.
C'est bon!
Une partie de la vente de nourriture et de boissons permettra de soutenir les filiales de l'OMRM et d'autres organismes de bienfaisance pour enfants du Canada.
Téléfiction Distribution et Télé-Québec présente...
Ben, tu fais-tu voir ça partir d'un même de chez vous?
Une réalisation de Ian England.
Je veux que tu rentres à la maison, OK?
Tu m'avais pas menti, j'aurais pas eu besoin de venir ici, papa.
Un scénario de Stéphanie Lapointe.
Faut que t'arrêtes de compter sur tout le monde pour avoir des réponses.
Avec Milia Corbeil-Gauvreau...